Pulsar des écrivains à Sarre, 21 avril 2025. Les éditions Kilika viennent de publier une nouvelle publication de François Borde, Les flammes de l'illusion, mythes et réalités des sorcières basques 1609. Bonjour François Borde.
Bonjour.
Alors vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Vous avez été inspecteur général des patrimoines honoraires, conservateur général honoraire, archiviste paléographe, docteur en histoire médiévale. Donc vous êtes un spécialiste de cette époque.
Je suis surtout un historien, ou du moins j'essaie de l'être, et de faire de la véritable histoire, c'est-à-dire de faire de la critique aussi, critique des documents, pour essayer de retrouver ce qu'ont été ces procès de sorcellerie qui font beaucoup parler au Pays Basque, mais dont on dit beaucoup de choses qui ne sont pas véritablement avérées.
Alors, il faut se replonger un peu dans le contexte. 1609, c'est ça, la venue de Pierre de Lancre en labour. Alors vous, comment vous voyez les choses?
Alors, Pierre de Lancre ne vient pas tout seul. Il vient avec Jean d'Espagné, qui est président au Parlement de Bordeaux. Ce sont deux parlementaires qui sont missionnés par le roi Henri IV pour venir chasser les sorcières, comme partout en Europe, en définitive, il y a des gens qui sont chargés, un peu partout. Il y en a eu des milliers qui ont été d'ailleurs victimes de ces procès. Et donc, voilà, eux, ils arrivent au Pays Basque parce qu'ils ont été appelés par les communautés basques de Cibourg, Urugne et Hendaye, et donc qui veulent éviter d'avoir trop de frais pour faire les procès de sorcellerie, puisqu'à l'époque, il y a déjà des femmes et des hommes qui ont été emprisonnés, notamment à Bayonne, sur ces affaires de sorcellerie. Donc on fait venir les juges au mois de juillet 1609 pour juger ces personnes emprisonnées, mais aussi essayer de trouver d'autres collègues, en quelque sorte, de la secte des sorciers et sorcières du démon.
Alors selon vous, est-ce que ces sorciers et sorcières existaient bien? Ou est-ce que c'était une affabulation du pouvoir politique et notamment de ce fameux juge de Lancre?
Non, le juge de Lancre, en fait, il fait partie de la culture de son époque. Tous les gens à l'époque, quels qu'ils soient, de quelque classe sociale qu'ils soient, croient en la réalité des sorcières depuis pratiquement le milieu du XVe siècle. Et ça, c'est un peu la dernière période, d'ailleurs, de grandes chasses aux sorcières qui vont s'arrêter à partir de 1620, mais surtout à partir de 1682. Donc tout le monde croit aux sorcières et aux sorciers, depuis le roi jusqu'au moindre paysan. Ce que va rajouter un petit peu la justice et l'Église de son côté, c'est la présence du diable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on dit que le diable est le chef de la secte des sorciers et sorcières, eh bien automatiquement, on va rechercher tous les gens, que ce soit des gens comme vous et moi, hein, qui peuvent être accusés d'être sorciers, parce qu'en fait, on n'a pas de preuves matérielles de ce qu'ils ont fait.
François Borde, selon vous, quelles sont les erreurs que vous entendez le plus souvent concernant donc ces procès de sorcellerie?
Alors, la plus grosse erreur sur laquelle, c'est pour ça que j'ai d'ailleurs écrit ce livre, c'est de dire que cette affaire basque était une affaire justement basque. C'est-à-dire que les derniers historiens ont considéré que le juge Pierre de Lancre était venu lutter contre les Basques au nom du roi, au nom de la monarchie, pour limiter les libertés du Pays Basque, alors que ce n'était absolument pas le cas. Pierre de Lancre écrit son livre 3 ans après être venu ici, et c'est un livre qui est une légitimation en quelque sorte de son action, avec un regard qui a intéressé les gens parce qu'il fait une analyse de la société basque. Mais ça n'est pas pour ça qu'il est là, ça n'est pas pour lutter contre les Basques, c'est pour lutter contre les sorciers et sorcières en général qui sont partout en Europe à l'époque.
Il y a eu quand même peut-être des personnes qui ont été condamnées, qui étaient innocentes.
Bien sûr, on n'est pas là pour dédouaner ce qui s'est fait ou pour excuser ce qui s'est fait. Simplement, ça faisait partie de la culture de l'époque. Tout le monde y croyait. Tout le monde savait que des gens pouvaient provoquer des tempêtes, pouvaient tuer des animaux, pouvaient tuer des humains. Donc, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de souci. On va les poursuivre. Donc, effectivement, ce sont des victimes, toutes sont des victimes innocentes de cette croyance à l'époque généralisée.
Il n'y a pas une question de pouvoir politique aussi, parce que certains disaient que c'est la famille d'Urtubi qui voulait conserver son pouvoir. Et est-ce qu'il n'y a pas des dessous politiques à cette affaire des sorcières?
Non, il n'y a pas de dessous véritablement politiques, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, les parlementaires sont venus sur la demande des communautés locales qui voulaient éviter d'avoir des frais en appel, c'est-à-dire qu'ils ont demandé eux-mêmes que les procès soient jugés jusqu'à condamnation à mort et qu'il n'y ait pas de possibilité d'appel. Donc ce sont les Basques eux-mêmes qui ont fait venir ces gens-là dans ces conditions-là. Et de toute façon, ce sont des choses qui se sont passées partout en Europe, de la Scandinavie à la Pologne, à l'Italie, à l'Espagne, etc. Et que donc, dans des conditions politiques extrêmement différentes, tous ces procès ont eu la même origine, qui était la lutte contre le diable.
Pour faire cet ouvrage, quelles sont les sources ?
Alors, la particularité de la chasse aux sorcières basques, c'est qu'il n'y a qu'une source, pratiquement, qui est le livre de Pierre de Lancre, puisque toutes les procédures ont disparu dans l'incendie du Parlement de Bordeaux au début du XVIIIe siècle. Alors le problème, c'est que quand on n'a qu'une source, il faut essayer quand même de l'utiliser au maximum, mais de manière véridique, je dirais, en essayant de faire de la critique de ce qui se dit, d'essayer de lire tout ce que a écrit Pierre de Lancre, parce que son livre s'inclut dans une logique littéraire depuis 1607 jusqu'en 1627. Pendant 20 ans, il va avoir une logique d'écriture, une écriture, parce que Pierre de Lancre n'est pas seulement un juge, c'est aussi un écrivain. Et ça, on l'a oublié. Donc moi, j'ai essayé d'étudier ses sources propres, quelle était sa culture qui lui permettait de pouvoir légitimer l'action qu'il a eu au Pays Basque.
Merci beaucoup François Borde. Les flammes de l'illusion, mythe et réalité des sorcières basques 1609. C'est un essai historique qui vient d'être publié chez Kelika Éditions. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Bilsard des écrivains à Sarre, 21 avril 2025. Nous sommes à Sarre pour le Bilsard des écrivains avec Marie-Agnès Domain et Nicolai Sergier-Kurzawa pour l'ouvrage publié aux éditions Kelika, Les Romanov à Biarritz.
J'ai connu le prince Michel Romanov, qui a vécu à Biarritz pendant de longues années. Il avait préfacé mon premier livre que j'avais écrit sur son grand-père, le grand-duc Alexandre Mihailovitch. Et donc, ça a été une histoire absolument extraordinaire de rencontrer ce prince absolument charmant et qui m'a permis de mieux connaître les Romanov.
Alors là, vous nous parlez de la vie des Romanov à Biarritz, c'est ça ?
Oui, tout à fait, la vie des Romanov à Biarritz. Toute la famille du tsar Nicolas II, notamment celle issue de sa sœur, la sœur Xenia. Son fils Féodor a vécu à Biarritz et a fondé sa famille à Biarritz avec le dernier prince Michel Romanov, qui a quitté Biarritz en 92 pour repartir sur Paris et décédé quelques années après. Et aujourd'hui, on est toujours en contact, nous sommes toujours en contact avec la famille Romanov.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas, il faut dire que Nicolas II donc, et toute sa famille ont été exécutés pendant la Révolution russe.
Alors, pas toute sa famille, lui, son épouse et ses enfants. Donc, il y avait encore les sœurs, Olga, Xenia, qui, elles, ont eu une descendance. Et donc, cette descendance est venue s'installer, entre autres, à Biarritz.
Et c'est cet exil à Biarritz que vous racontez ?
Oui, alors nous parlons des Romanov qui sont venus à Biarritz, mais avant la Révolution russe, ils venaient déjà, ils aimaient beaucoup la côte basque, et certains donc, qui ont pu s'échapper de Russie après la Révolution sont venus vivre leur exil à Biarritz.
Alors, à travers l'exil des Romanov à Biarritz, vous nous parlez de Biarritz aussi à cette époque.
Oui, bien sûr, on présente Biarritz et toutes ses fêtes et tout ce qui s'y passait d'absolument fantastique. Et les Romanov ont apporté une certaine gloire, entre guillemets, à Biarritz.
On comprend mieux pourquoi il y a une église orthodoxe à Biarritz.
Voilà, parce qu'elle a été construite avant la Révolution russe, à l'initiative des Russes, et donc c'est l'explication. Et du reste, au moment de l'inauguration, l'impératrice mère, Maria Fédorovna, est venue dans cette église, donc il y a toute une histoire absolument prestigieuse.
Et il faut savoir qu'à l'intérieur même de l'hôtel du Palais, il y avait déjà une chapelle russe, pour recevoir justement les membres de la famille impériale.
Donc, vous nous plongez dans cette époque, donc ça c'est dans les années, ça raconte quelles années ?
Alors, nous parlons de Biarritz avant la Révolution russe, donc avant la Grande Guerre, et après, lorsque les Romanov sont arrivés en exil.
Jusqu'à maintenant, enfin jusque dans les années 90.
Mais écoutez, les Romanov à Biarritz, donc Nicolai Sergier-Kurzawa et Marie-Agnès Donner, C'est aux éditions Kilika, les Romanov à Biarritz, avec une préface du prince Constantin Pavlovitch Mourouzi. Vous pouvez nous en dire un mot ?
Alors le prince Constantin, son arrière-grand-tante était la reine Nathalie de Serbie, donc très connue des gens de la côte basque. Et c'est quelqu'un qui avait une association, l'association Vladimir, très importante, et qui est notamment pour beaucoup dans le changement de nom de Saint-Pétersbourg. C'est lui qui a réhabilité le nom de la ville de Saint-Pétersbourg. Donc c'est un grand personnage.
Les Romanov à Biarritz, publiés aux éditions Kilika. Merci à Marie-Agnès Domain et Nikolaï Saint-Gé-Courzawa. Bilsart des écrivains à Sarre, 21 avril 2025.